12 sur Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Les manifestants qui se sont introduits hier dans l'enceinte de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris. Avaient-ils vraiment de mauvaises intentions ou bien ont-ils seulement voulu se réfugier à l'abri? Les versions divergent, on tentera d'y voir clair avec Salomé Legrand. À la une également, un dénouement heureux et des salariés soulagés, ceux d'Ascoval qui ont connu bien des espoirs et des déceptions depuis 4 ans. La justice valide la reprise par le groupe britannique Steel qui s'engage à conserver les 270 emplois. Un permis de conduire moins cher, c'était une promesse. L'État veut favoriser des modes d'apprentissage alternatifs. À 36 jours du coup d'envoi du mondial de foot féminin, la sélectionneur Corinne Diacre a présenté ce soir la liste des 23 joueuses retenues. Julien Froment nous dira tout. Et je serai en ligne avec Grace Gueyoro, la milieu de terrain du PSG qui figure dans cette liste. Côté météo, la journée de demain sera encore bien grise et bien pluvieuse, parfois même orageuse et fraîche le matin en particulier, avec des températures qui pourront descendre jusqu'à 2 degrés. Prévision complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Pierre Viriot, le directeur de la communication interne d'EDF, principal sponsor de l'équipe de France de foot féminine justement. Que s'est-il passé hier après-midi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, en marge du cortège du 1er mai? Une enquête est ouverte sur l'intrusion de plusieurs dizaines d'individus dans l'enceinte de cet hôpital. Enquête pour démêler le vrai du faux. Les versions divergent en effet. Ces manifestants sont-ils entrés dans l'hôpital pour se protéger ou bien pour casser? Le ministre de l'Intérieur a très vite dénoncé hier une attaque. Irresponsable, idiot, scandaleux, a dit aujourd'hui Édouard Philippe. On va donc essayer d'y voir un peu plus clair avec vous, Salomé Legrand du service police justice d'Europe 1, car depuis la direction de l'APHP, Salomé se montre beaucoup plus mesurée.
Oui, alors l'enquête ouverte ce matin se poursuit, mais la direction de l'APHP a d'ores et déjà distingué 3 faits dans la nuit de mardi à mercredi d'abord. Donc avant la manifestation, une effraction à l'Institut de cardiologie avec des dégradations importantes à la fois sur les murs et sur le mobilier. Ensuite, hier après-midi, un vidéoprojecteur du service de chirurgie digestive a été arraché et dérobé. Et toujours hier après-midi, mais troisièmement, vers 16h30, plusieurs dizaines de manifestants qui forcent une grille métallique entrent dans l'enceinte de l'hôpital et se massent sur la plateforme d'un escalier extérieur. Plusieurs vidéos de ce moment existent, dont une depuis l'intérieur du bâtiment. On y voit les soignants garder fermement la porte en criant qu'il s'agit d'un service de réanimation, qu'il ne faut pas entrer, qu'il y a des patients. Des policiers sont au pied de l'escalier. Les manifestants, nombreux, piétinent, mais redescendent au bout de quelques minutes, certains les mains en l'air. L'APHP précise d'ailleurs que les soins n'ont pas été perturbés et qu'aucune dégradation n'a été constatée dans ce service de réanimation. À ce stade, aucun lien ne peut être fait entre les 3 événements, dit encore la direction des hôpitaux publics de Paris. On ne sait pas s'il y a pu y avoir d'autres intrusions dans l'hôpital. Du côté du ministère de l'Intérieur, on maintient ce soir que l'enceinte de l'établissement a été forcée et qu'il s'agit de faits, je cite, inadmissibles.
Les précisions de Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Des détails sur le projet d'attentat des 4 suspects qui ont été arrêtés la semaine dernière et mis en examen depuis. Ils avaient apparemment repéré un commissariat à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, mais ils voulaient aussi, semble-t-il, cibler le palais de l'Élysée. C'est l'épilogue de 4 ans d'angoisse pour les salariés. Aucun emploi ne sera finalement supprimé chez Ascoval, dans le Nord. La scierie de Saint-Saulve est reprise par le groupe britannique British Steel, qui s'engage à conserver les 270 salariés du site. Immense soulagement pour les intéressés après un long combat. Vous étiez à leur côté cet après-midi, Lionel Gougelot. Ils ont accueilli cette nouvelle avec joie, on le disait, mais sans réelle euphorie.
Pas d'effusion de joie, pas d'euphorie, des réactions tout en retenue à l'annonce de la reprise. Mais après des mois d'incertitude, des repreneurs défaillants et des menaces de liquidation, la plupart des salariés, comme Hervé, veulent croire à un avenir meilleur.
Bon, on est content, mais maintenant on était prudent quand même parce qu'on s'est quand même fait échauder il y a un an avec Altifer. Mais bon, je vous dis, on est sauvé maintenant, mais c'est pas gagné. Mais bon, on espère sincèrement que maintenant c'est reparti pour du bon. Mais j'y crois, sincèrement j'y crois.
Il n'était que quelques-uns présents sur le site cet après-midi parce qu'il y a encore des mesures de chômage partiel actuellement chez Ascoval. Des salariés et leurs représentants syndicaux auxquels Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a tenu à rendre hommage.
S'ils n'avaient pas été là pour tenir toutes les années qu'a duré cette affaire Ascoval, eh bien, on n'y serait pas arrivé. Et ils ont fait preuve d'un sens des responsabilités absolument exceptionnel que je tiens à saluer. On peut les applaudir.
Les 270 emplois sont donc sauvés. Le défi maintenant, c'est une production de 600 000 tonnes d'acier d'ici 3 ans à des prix concurrentiels pour British Steel, mais aussi pour de nouveaux clients qu'il va falloir aller chercher. Bruno Kobzinski, porte-parole de l'intersyndicale.
On est conscient qu'il va falloir se mettre au travail, que ça va être compliqué, mais ce qu'il faut, c'est convaincre les clients de venir vers nous. Donc c'est un autre combat et on va relever le défi.
Mais le site ne retrouvera sa pleine capacité qu'à l'automne prochain, le temps d'adapter l'usine à la production de nouveaux produits d'acier. Cela nécessitera environ 15 millions d'euros d'investissement à la charge du repreneur.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. C'était une promesse du président de la République, la baisse du coût du permis de conduire. 10 mesures ont été présentées aujourd'hui. Objectif, une baisse de l'ordre de 30% environ. Mathieu Bock, l'État veut favoriser notamment des modes d'apprentissage alternatifs et moins chers.
Oui, par exemple, en faisant apprendre aux candidats à rouler grâce à un simulateur, pour les premières leçons en tout cas, mais également en favorisant l'apprentissage sur boîte automatique, 13 heures au lieu de 20 actuellement. Une autre proposition est d'abaisser la conduite accompagnée à 15 ans et la conduite supervisée, c'est-à-dire que le jeune conducteur peut avoir plusieurs personnes agréées pour l'accompagner dès l'âge de 17 ans. Afin de réduire les temps d'inscription et de passage au permis, on pourra désormais directement postuler en ligne et si le candidat rate son permis, il pourra le repasser plus ou moins rapidement en fonction de sa note. Enfin, deux mesures qui étaient déjà connues. Le permis sera gratuit pour les jeunes qui s'engagent dans le service national universel. Et de manière plus simple, plus prosaïque, un contrat type sera lancé ainsi qu'un comparateur en ligne afin, tout bêtement, de faire jouer la concurrence. Les professionnels, justement, se sont déclarés favorables à ces grands principes, mais ils disent rester vigilants sur les conséquences de cette réforme qui pourrait engendrer une baisse de la qualité de la formation et une destruction du maillage territorial des auto-écoles. Ces nouvelles mesures devraient entrer en œuvre à partir du mois de juin pour être généralisé dès l'année prochaine.
Les précisions de Mathieu Bock. La France et l'Italie se réconcilient autour de Léonard de Vinci, amitié mise à mal ces derniers temps, retrouvailles sur la tombe du génial artiste à Amboise. Le jour du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, Emmanuel Macron et son homologue Sergio Mattarella ont célébré ce symbole de l'amitié franco-italienne après des mois de tensions entre Paris et Rome, tensions qui avaient culminé avec un bref rappel de l'ambassadeur français.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h07, merci d'écouter Europe 1. Et c'est une première dans l'histoire du foot féminin. Ce soir, Corinne Diacre était sur le plateau du 20h de TF1 pour y dévoiler la liste des 23 joueuses sélectionnées pour le mondial féminin qui va se jouer en France, bien sûr, à partir du 7 juin. Première fois dans l'histoire de l'équipe de France féminine qu'un tel dispositif est mis en place. Et ça en dit long sur l'évolution du foot féminin dans notre pays et sur l'engouement qui entoure déjà cette Coupe du Monde. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
23 joueuses retenues donc. L'une d'elles, Grace Gueyoro, sera en ligne avec nous dans un tout petit instant. Mais d'abord, dites-nous tout, Julien, sur cette liste.
Oui, vers 20h40, la sélectionneur Corinne Diacre donc, a égrené en direct la liste des 23 chanceuses retenues pour disputer cette Coupe du Monde en France.
Gardienne de but. Sarah Boisdi. Solène Durand.
Donc voilà la liste, Pauline les 23 joueuses qui ont été donc retenues par Corinne Diacre, une liste défenseur, très classique pour les spécialistes du Julie football féminin. Un détail près, l'absence de la jeune attaquante Marie-Antoinette Katoto, 20 ans. C'est comme si Didier Deschamps en fait, se privait de Kylian Mbappé. Plus de la moitié des questions de la conférence de presse ont été consacrées à l'absence de la joueuse parisienne, mais la sélectionneur a préparé sa défense et a assumé son choix.
J'ai fait un choix fort maintenant. Ce choix, il a été mûrement réfléchi. Marie-Antoinette, elle a un énorme potentiel. Je veux dire, je vous apprends rien ce soir en vous disant ça. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais il m'a manqué de la performance dans les grands rendez-vous. Donc, c'est le pourquoi. Je n'ai pas mis Marie-Antoinette Katoto dans la liste.
Et surtout, Corinne Diacre a prévenu, si une des sélectionnées n'est pas satisfaite, la porte est grande ouverte, elle appellera une autre joueuse. C'est ça la méthode Diacre, fermeté, exigence et des choix forts pour tenter de mener l'équipe de France au moins en finale. C'est l'objectif fixé par le président Le Graët, la sélectionneur voit plus loin elle. Un autre résultat serait un échec. Début de la préparation des Bleus pour cette Coupe du Monde, le 8 mai.
Merci beaucoup Julien Froment du service des sports d'Europe 1 en direct. Et parmi ces 23 joueuses retenues par Corinne Diacre, il y a notamment Grace Gueyoro qui est en ligne avec nous ce soir sur Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bien sûr, félicitations pour cette sélection. Vous allez donc faire partie de la grande aventure. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Grace, quand vous avez entendu ce soir Corinne Diacre annoncer votre nom en direct aux 20h de TF1
J'ai ressenti beaucoup d'émotions, surtout que voilà, c'est une toute première pour moi déjà de participer à une Coupe du Monde et même de se voir ce soir sur TF1 dans la liste de Corinne Jack. Forcément, ça procure beaucoup d'émotions et j'étais très heureuse.
Toute votre famille était devant la télé. Vous avez reçu des dizaines de SMS.
Oui, voilà, exactement. J'ai reçu beaucoup d'SMS. Ma famille, là, je suis en présence de ma maman. Ma famille était très, 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 très heureux et très, très content aussi de me voir parmi cette liste. Donc, c'était que du bonheur.
Elle doit être sacrément fière à votre maman ce soir. Vous allez faire la fête un peu? Vous allez faire une entorse à votre hygiène de vie ce soir?
Non, pas du tout, non. Je vais rester en famille. Je vais profiter de ce petit moment en famille. Je ne vais pas faire grand-chose. J'ai aussi un match ce week-end, donc je vais rester assez tranquille.
Bon, vous êtes raisonnable. Vous avez en tout cas déjà un parcours de championne grâce à Guéyoro. Vous avez 18 sélections en équipe de France. Vous avez participé à l'Euro 2017 avec les Bleus. Mais là, quand même, on parle du mondial et du mondial en France. Est-ce que vous avez davantage la pression justement parce que vous allez jouer à domicile? Vous vous imaginez là fouler la pelouse du Parc des Princes devant des milliers de personnes?
Forcément, quand on voit notre nom s'afficher dans la liste, on suit plusieurs scénarios de comment ça va se dérouler les choses. Mais voilà, pour le moment, il va falloir aller étape par étape, prendre chaque match différemment et avec sérieux surtout. Et puis voilà, quand il va falloir profiter, il va falloir aussi profiter de certains moments et surtout montrer de très belles performances. Je pense que c'est ce qui va être très important.
Et alors, le fait que vos homologues masculins aient remporté la dernière Coupe du Monde, ça place quand même la barre très, très haut.
Oui, effectivement. Surtout qu'ils ont montré une très belle image aussi de cette équipe de France avec une très belle victoire. Donc voilà, il va falloir qu'on fasse de même et qu'on montre aussi que le football féminin évolue et que les filles de l'équipe de France, les Bleus aussi, savent jouer au foot. Et je pense que cette Coupe du Monde va être une très belle expérience pour nous tous.
La Coupe du Monde féminine qui va enfin être traitée avec la même attention et les mêmes moyens que la Coupe du Monde des hommes, ça c'est déjà une petite révolution. Un mot peut-être pour votre coéquipière du PSG, Marie-Antoinette Katoto, qui n'a pas été retenue alors qu'elle est la meilleure buteuse du championnat de France.
Oui, c'est vrai que j'ai eu Marie-Antoinette juste après la liste par message, parce que Marie-Antoinette, avant d'être ma coéquipière, c'est une très bonne amie à moi. On est souvent ensemble, on partage, on joue dans la même équipe, on est tout le temps coloc de chambre, on partage la même chambre, donc c'est une très bonne amie. Voilà, moi le seul petit mot que je pouvais lui dire, c'est que il faut qu'elle relève la tête. Voilà, c'est aujourd'hui, elle n'est pas sélectionnée, c'est le football, il faut qu'elle continue à travailler. Et je pense que plus tard, son jour viendra aussi. Il faut juste qu'elle s'accroche, c'est tout.
Merci beaucoup en tout cas. Merci Grâce Guéyoro d'avoir réagi à cette sélection ce soir sur Europe 1. Encore bravo et c'est promis, on va vous suivre et on va vous supporter de tout notre cœur.
Merci beaucoup.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Allez, un mot des autres grands titres de l'actualité de ce jeudi avec le Venezuela. Et alors que Juan Guaido a appelé à poursuivre la mobilisation, Nicolas Maduro, lui, compte sur l'armée dans un discours ce jeudi. Celui qui est toujours président du Venezuela appelle les militaires à combattre tous les putschistes. Les manifestations d'hier ont fait 4 morts. Au Soudan, une immense foule ce soir dans les rues de Khartoum pour réclamer à l'armée un pouvoir civil. Alors que le procureur général a ordonné un interrogatoire du président déchu Omar al-Béchir pour des affaires de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Les obsèques de Dick Rivers aujourd'hui, décédé la semaine dernière à 74 ans, cérémonie ouverte au public en présence notamment de Francis Cabrel, de Nicoletta, d'Isabelle Aubray, de Jean-Luc Lahaye ou de Christophe de Chavannes. Et puis cette fois, la liste est complète. Le Festival de Cannes a finalisé sa sélection et il y aura encore plus de stars que prévu. Les organisateurs ont annoncé aujourd'hui 2 nouveaux films, Mathieu Charrier.
Deux nouveaux films, notamment celui de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Il était une fois Hollywood, si on le traduit en français. Sans doute l'un des films les plus attendus de l'année, qui est encore au montage. Donc on ne savait pas si Quentin Tarantino l'aurait fini à temps. Le doute a été levé en fin de matinée. Ça veut dire que Brad Pitt et Leonardo DiCaprio seront sur le tapis rouge 25 ans, jour pour jour, après Pulp Fiction. Vous savez, on a beaucoup dit l'année dernière que Cannes, en ne trouvant pas d'accord avec Netflix notamment, n'attirait plus le cinéma américain. Eh bien, Thierry Frémaux prouve le contraire cette année. Il corrige le tir avec avec une sélection qui affiche ce qu'il y a de mieux en termes de cinéma. Parce qu'en plus de Tarantino, on a également appris qu'Abdelatif Kechiche rejoignait la compétition avec Mektoub My Love Intermezzo. Kechiche qui avait réalisé La vie d'Adèle, Coup de poing et Palme d'or il y a 6 ans et qui fera donc son grand retour sur la croisette avec ce film qui dure près de 4 heures quand même. Gaspard Noé lui rejoint le hors compétition, donc avec Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, les Dardenne, Desplechin, Ken Loach, Terrence Malick et d'autres. La liste des cinéastes qui présenteront leurs films à Cannes cette année est impressionnante, sans compter les séances de gala, entre guillemets, avec Elton John, avec Maradona. Plus que jamais, les stars et le cinéma mondial seront à Cannes cette année.
Eh bien, merci Mathieu Charrier qui nous fera vivre évidemment sur Europe 1 ce festival de Cannes. Et puis on parlait de foot féminin à l'instant. Je vous signale qu'en ce moment se jouent 2 demi-finales aller de Ligue Europa avec des messieurs sur le terrain. Francfort-Chelsea 1-1 pour l'instant et Arsenal domine 2-1 face à Valence alors qu'on est à la 56e minute de jeu environ. On jette un œil avec vous sur la météo tout de suite, Valérie Darmon. Et pour demain, bah, ça ne sera pas terrible, hein, des nuages et encore de la pluie.
Et oui Isabelle, pas question d'oublier son parapluie. En ce vendredi, le ciel va rester chargé de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie tout au long de la journée. Les pluies seront faibles à modérées, mais le vent va se renforcer au cours de l'après-midi avec un ressenti de plus en plus automnal. Le temps sera plus lumineux sur l'ensemble de la journée avec quelques averses tout de même ici ou là du Grand Est au centre en passant par la Bourgogne-Franche-Comté. C'est un peu le là du jour si je puis dire. Et puis de la Bretagne aux Hauts-de-France, le ciel deviendra rapidement nuageux là aussi avec quelques pluies en milieu d'après-midi. Midi. Il faudra attendre la soirée pour retrouver un tout petit peu de soleil sous forme d'éclaircies. De la région PACA à la Corse, le ciel sera souvent voilé et les températures sont en baisse, voire en berne, entre 11 à Dunkerque et 20 degrés à Toulon. À Paris et Strasbourg, il fera 16 demain après-midi, tout comme à Bordeaux et à Brest.
La météo signée Valérie Darmon. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Pierre Viriot. Il est le directeur de la communication interne d'EDF. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et une deuxième journée dans le rouge à Wall Street.
Oui, ça baisse avec un Dow Jones en repli de 0,46%, 26 308 points. Le Nasdaq recule de 0,16%, 8 037 points. L'ambiance est plombée par la Fed. Depuis hier, son patron Jérôme Powell a écarté l'hypothèse d'un assouplissement monétaire cette année. Pas de baisse des taux, donc, malgré les menaces de Donald Trump, qui voudrait, selon son expression, voir la croissance américaine décoller comme une fusée. Donc ça pèse sur les grandes valeurs. Caterpillar perd 2,2%, Nike moins 0,7%, Microsoft moins 1,3%. En hausse, on a tout de même Tesla avec bientôt une nouvelle levée de fonds pour le constructeur de voitures électriques haut de gamme. Une levée de fonds qui pourrait atteindre 2,3 milliards de dollars. Elon Musk, le patron de Tesla, va participer à cette opération avec un investissement de 10 millions de dollars dans les actions de l'entreprise. Donc tout ça, ça plaît au marché avec un titre qui bondit de 4,3%. Le pétrole est en forte baisse et pèse sur le secteur, repli de 2,8% pour le baril, 61,81 $. Et puis l'euro perd 0,2% à 1,1176 $.
Le marché parisien, lui, Claire, a terminé en baisse après sa pause pour le 1er mai.
Oui, une baisse appuyée pour le CAC, moins 0,85%, 5 539 points. Séance sous pression pour Legrand qui fabrique des équipements électriques, moins 5,1%. Les résultats de Legrand sont jugés décevants par les investisseurs. Et puis la rechute du pétrole pèse aussi sur le secteur à Paris. Technip lâche plus de 5%. Valourec et CGG concèdent plus de 4%.
Et puis il y a BNP Paribas qui fait partie des gagnants du jour.
La banque a publié des résultats qui dépassent les attentes des marchés. L'action monte de 1,2%. Ça profite à ses concurrentes, Société Générale et Crédit Agricole en hausse également. Et puis l'accueil est positif pour Nexans, le fabricant de câbles, avec un titre qui progresse de 3,5%. Enfin, Veolia aussi, c'est du vert plus 1%. Après, des comptes également solides. La reprise est difficile pour les bourses européennes après la pause du 1er mai. Francfort est stable, mais Londres perd 0,5%. Bruxelles, 7,07%. Madrid, moins 1,6%. Milan, moins 0,8%. Amsterdam, moins 0,9%. Et le CAC enregistre un repli de 0,8% à 5 539 points.
La reprise est toujours difficile après les ponts. Merci beaucoup, Claire Lemaître de Boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
Et Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le directeur de la communication interne d'EDF.
Bonsoir Pierre Verriot.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur de la communication interne marque et image chez EDF. Alors on vient d'en parler dans le journal de 22h d'Isabelle Millet. Ça y est, on a la liste des filles sélectionnées pour la Coupe du Monde de football. Cette Coupe du Monde va se tenir en France d'ici un tout petit peu plus d'un mois. Ce sera début juin. Vous êtes chez EDF, l'un des principaux sponsors nationaux. Question toute bête, pourquoi vous avez misé sur un tel événement ?
Parce que l'engagement d'EDF dans le sport ne date pas d'hier. C'est un engagement depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant. Donc on est très attaché aux valeurs du sport. C'est un engagement qui dépasse la seule logique économique. C'est un engagement que je qualifierais même de sociétal. Et on était du coup partant pour accompagner cet événement à double titre. D'une part parce qu'on est partenaire de la Fédération française de football. Et donc, on accompagne toutes les équipes de France, certes l'équipe de France masculine avec un beau parcours l'année dernière, mais également l'équipe de France féminine, les espoirs et tout le foot amateur. Donc, c'est important, qui est présent dans tous les territoires. Et ça colle bien à une entreprise comme EDF. Et puis, on a souhaité vraiment être très présent sur cet événement. Donc, on est également supporter national de la Coupe du Monde. Donc, ça, c'est un partenariat avec la FIFA.
Donc, plusieurs partenariats, mais comme vous le rappeliez, vous êtes partenaire de long terme du football. Par exemple, à l'Euro 2016, vous étiez l'un des sponsors également de l'Euro 2016 pour les garçons. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un petit peu la question de se dire, bon, on a soutenu les garçons, ça ne serait quand même pas très classe qu'on ne le fasse pas pour les filles ?
Non, honnêtement, le partenariat d'emblée prévoyait d'accompagner en fait l'ensemble des équipes, masculines, féminines, le foot amateur, les 17 000 clubs. Donc, notre investissement, il sert aussi ce foot dans les régions, au plus près des territoires. Donc, il nous a semblé naturel, puisqu'on avait été présents lors des événements, notamment avec l'équipe de France masculine, d'être présents sur un événement qui, en plus, va se dérouler en France. Donc, qu'on espère être un grand moment de ferveur nationale, voilà, d'accompagner les féminines.
Mais quand on est un groupe comme vous, EDF, a priori, je pense que tous les Français connaissent EDF. On ne va pas dire qu'ils vous aiment tous, mais au moins, ils vous connaissent tous. À quoi ça vous sert de dépenser quand même beaucoup d'argent pour faire parler encore un peu plus de vous ?
Alors, on n'est pas dans des montants. Souvent, quand on parle de foot, évidemment, tout le monde imagine le prix des transferts des joueurs professionnels. On n'est pas du tout dans ces montants-là.
On peut avoir une idée, ça coûte combien, là, par exemple, pour les filles ?
Alors, on est sur des montants qui sont beaucoup plus raisonnables, qu'on ne communique pas habituellement, pas tant par manque de transparence.
C'est-à-dire que le partenariat avec les filles pour une Coupe du Monde coûte moins cher que, par exemple, le championnat d'Europe des garçons ?
Non, parce qu'on ne découpe pas. C'est un partenariat qu'on a, encore une fois, global. Voilà. Après, sur cet événement qui est la Coupe du Monde féminine, on a un partenariat spécifique effectivement avec la FIFA. Et c'est la première fois pour vous montrer que voilà, l'idée, c'est pas de se dire tiens, on va faire comme
donc
pour les garçons.
Avoir, par exemple, le partenariat avec la FIFA, c'est quoi ?
Alors, pour le coup, sur la FIFA, il y a
des millions d'euros.
Il y a des chiffres qui ont été rendus publics, qui sont de l'ordre du million d'euros. On est même, pour tout vous dire, un petit peu en dessous de ça.
Un tout petit peu en dessous de ça. Mais vous ne m'avez pas vraiment répondu à la question. À quoi ça vous sert ? C'est à ce que l'on vous voit d'un meilleur œil ? Parce que vous n'êtes pas des philanthropes quand même. Ça a beau être un petit million d'euros, ça peut servir à autre chose.
Il y a bien sûr un enjeu de communication. L'entreprise est depuis quelques années en concurrence sur tous ces marchés. Donc, on a un enjeu évidemment de visibilité. Mais encore une fois, on n'a pas attendu l'ouverture à la concurrence pour être présent dans le sponsoring sportif. On est depuis plus de 25 ans présent et auprès de diverses fédérations. Je pense qu'il y a une vraie cohérence dans les partenariats qu'on noue. Par exemple, avec la Fédération française de handisport, plus de 25 ans, avec les sports d'eau, qui correspondent bien à nos métiers, en tant qu'hydrauliciens, voilà, on gère les barrages, on est attaché à la ressource
peut-être
naturelle.
Peut-être plus pour très longtemps, mais en tout cas, pour le moment, vous avez encore les barrages.
Et donc, on est partenaire de la natation, partenaire du canoë-kayak. Et le football, ça nous semblait assez naturel pour une entreprise, une marque, je dirais, comme EDF. D'ailleurs, on est tellement proches qu'on partage le même acronyme.
Effectivement.
Voilà, donc, qui est un sport populaire. EDF est une marque patrimoniale. On est présent chez presque tous les Français. Il y a une histoire, finalement, qui nous lie avec la société française.
Du coup, ça s'imposait. C'est ça que vous nous dites, Pierre Verriot.
Exactement.
Et du coup, est-ce que vous sentez qu'il y a une forme aussi d'engouement autour du football féminin, et c'est pas mal d'accompagner aussi un mouvement, comment je pourrais dire, peut-être naissant. C'est vrai, quand on regarde les chiffres de vente par exemple pour cette Coupe du Monde, on voit qu'il y a un vrai, vrai soutien populaire.
Bah, j'oserais même dire qu'on l'a un peu devancé. On n'est pas, l'idée, c'est pas de surfer sur la vague, c'est au contraire de l'amplifier, de participer justement du développement de cet engouement pour le sport féminin. Pas uniquement pour le football féminin, même si le football est un peu le sport roi, un peu emblématique. Mais donc effectivement d'accompagner ça, parce que ça nous fait écho aussi avec des enjeux qu'on a au sein de l'entreprise, de développer davantage la mixité, de recruter davantage de femmes. Et donc oui, on est dans cette idée d'avoir une approche du sport qui soit la plus inclusive possible, à la fois pour les personnes en situation de handicap, les valides, les hommes, les femmes. Voilà, bref, c'est le sport, c'est de l'engagement, c'est du respect, de la solidarité, de la passion, et c'est bien que ça soit partagé par tous.
Vous avez une équipe de football féminin chez EDF ?
On a une équipe.
On en a une, nous, en construction en ce moment.
On a des équipes mixtes.
Alors, on salue justement nos filles qui, chaque mercredi soir, s'entraînent.
Eh bien, c'est très bien, parce que nous-mêmes, dans le cadre de l'accompagnement de cet événement, qui est la Coupe du Monde féminine, on a organisé un tournoi interne avec des équipes mixtes, voilà, auxquelles j'ai participé avec grand plaisir.
Et qui est-ce qui a gagné alors du coup ?
Je ne vous donnerai pas mes scores parce que c'était pitoyable.
Mais... C'était pitoyable.
Et c'est notre filiale italienne Edison qui a remporté face à l'équipe de Flamanville.
Au sein de toute l'entreprise. Quand on est un groupe quand même détenu par l'État, puisque vous êtes encore... Est-ce qu'il y a un petit coup de fil aussi pour dire « Eh oh, là, il va peut-être falloir y aller ?»
Absolument pas.
Ou vous êtes totalement libre sur ce genre de partenariat ?
Absolument pas. On est totalement libre. Et on le fait encore une fois en lien avec ce que sont... nos valeurs et notre volonté de nous engager dans le sport de façon large.
Et du coup, on est vraiment sur une idée de symbole. Il faut en être quand on est une grosse entreprise française, une grosse entreprise patrimoniale.
Oui.
Parce que c'est vrai, quand on regarde les autres qui sont, on peut citer par exemple le Crédit Agricole, je pense qu'ils sont un peu dans les mêmes idées, les mêmes images que vous. Eux aussi soutiennent les garçons. Oui. Donc du coup, il faut en être quand c'est ça.
Il faut en être.
Ça fait partie de sa responsabilité.
Si on conçoit son... Exactement. C'est un sujet de responsabilité. Quand on conçoit son rôle comme étant pas uniquement un fournisseur d'électricité ou d'énergie, également un acteur présent sur l'ensemble des territoires et qui, encore une fois, privilégie des démarches d'inclusion, de mixité, de diversité, eh bien, le sport, c'est un bon vecteur pour ça.
Eh bien, merci beaucoup d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Pierre Viriot, qui est donc le directeur de la communication interne, marque et image chez EDF. Et si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous êtes donc l'un des principaux sponsors de cet événement, de cette Coupe du Monde de football féminine que vous pourrez suivre, hein, bien évidemment, sur Europe 1. Ça débute le 9 juin. On sera tous
et
là pour soutenir.
En souhaitant que les filles accrochent la première étoile à leur maillot.
Mais on est certain qu'elles feront au moins aussi bien que les garçons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup à vous. Et on se retrouve nous demain, 22h20 sur
évidemment,
Europe 1.
Évidemment, on vous retrouve demain. Merci beaucoup, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour se démarquer, imprimer des timbres avec le logo de votre entreprise en toute simplicité.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Attaque de la pitié salpêtrière, la fake news venait de l'intérieur, titre Libération. Non, écrit le journal, contrairement à ce qu'a affirmé Christophe Castaner, l'hôpital parisien n'a pas été pris d'assaut et dégradé par des manifestants. Après l'emballement général, des vidéos et des témoignages infirment la thèse du gouvernement d'un assaut et de dégradation par des activistes violents. Les prétendus membres du Black Bloc étaient surtout des manifestants lambda, cherchant à fuir les charges policières et à se protéger des gaz lacrymogènes. Quand ils sont entrés dans l'enceinte de l'hôpital, sur les vidéos, aucun n'a le visage masqué. Quant à l'assaut supposé du service de réanimation, il apparaît surtout après examen des images diffusées qu'il s'agit là aussi d'une tentative de fuite des manifestants pris en tenaille par les forces de l'ordre. Voilà donc ce qu'écrit Libération. Je vous rappelle que toutes les personnes interpellées lors de cet épisode ont été relâchées ce soir et qu'une enquête, bien sûr, est en cours. À lire demain dans Le Parisien aujourd'hui en France, l'interview de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Elle annonce notamment le lancement, dès la rentrée prochaine, de 13 campus connectés afin de pouvoir étudier à distance. Ça concernera une douzaine de villes éloignées des pôles universitaires, notamment Saint-Brieuc, Cahors ou Bar-le-Duc. Les étudiants concernés seront accompagnés par des tuteurs. Les jeunes auront un emploi du temps, passeront les mêmes examens que les autres qui leur donneront le même diplôme. Quant aux formations proposées, ce sera majoritairement des BTS, des licences de littérature, de droit, de langue étrangère ou de mathématiques. Les horloges s'affolent, écrit Bernard Stéphane dans le journal La Montagne. L'éditorialiste revient sur la demande formulée aujourd'hui par Emmanuel Macron à ses ministres. Allez faire le service après-vente. Il s'agit de convaincre pour tenter d'en finir avec le mouvement des Gilets jaunes, ce qui n'est pas gagné tellement la grogne sociale est toujours latente. Édouard Philippe redevient le fusible, écrit Bernard Stéphan, chargé de mettre en musique les mesures. Coup d'éclat, Esbrouf enquête sur la méthode Ruffin, titre le journal L'Opinion. François Ruffin, le député de la France Insoumise de la Somme, devenu au fil
fil des mois la bête noire de la majorité. Il suscite également de la jalousie parmi les siens. Et puis l'opéra, miroir du pouvoir, titre le journal La Croix, avec en une photo d'Emmanuel Macron en train d'assister, assis au balcon, à une répétition à l'opéra de Strasbourg en 2017. Tous les opéras de France ouvrent leurs portes ce week-end, nous rappelle La Croix, alors que la nomination d'un nouveau directeur de l'Opéra de Paris est très attendue. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sabrina Philippe pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabrina.
Bonsoir Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour les infos. À tout à l'heure.